Aujourd'hui, la masterclass de Alaa Alaswani avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass France Culture d'Alaa Alaswani. Ici au studio 105 de la Maison de la Radio. Pour rappel, donc, cette collection d'émissions elle a pour vocation d'essayer de savoir comment un artiste construit une œuvre, vraiment au sens de la fabrication de celle-ci, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste estime que l'œuvre est achevée. Il nous raconte le processus d'élaboration. C'est vrai que d'une masterclass à une autre, il y a des questions qui sont communes, même si on reçoit des écrivains, des cinéastes, des plasticiens, des musiciens, il y a toujours ce mystère de la création. Aujourd'hui, c'est donc Alaa Alaswani qui a accepté de répondre à notre invitation, donc qu'il en soit grandement remercié. Je vais faire quelques petits rappels d'éléments biographiques vous concernant avant d'entrer dans le vif du sujet, pour dire notamment que votre père était avocat mais aussi écrivain, que vous-même avez suivi une formation de chirurgien dentiste achevée à l'université de l'Illinois, à Chicago. Et aussi le titre d'un de vos romans, dentiste de profession. Vous l'êtes encore un peu. Rappelons aussi que vous avez travaillé en usine pendant 6 ans, que c'est une expérience qui est très importante aussi, que vous enseignez maintenant à New York, que vous écriviez régulièrement dans les journaux égyptiens. On verra que c'est plus le cas aujourd'hui parce que on vous l'interdit. En tout cas, vous faites partie de celles et ceux qui ont, longtemps avant la révolution égyptienne de 2011, réclamer des élections présidentielles réellement libres, toujours un acteur et un chroniqueur de la vie politique de votre pays, dont il est évidemment beaucoup question dans le dernier livre en date, « J'ai couru vers le Nil », un roman qui est à ce jour toujours interdit en Égypte, qui a été publié au Liban, qui est donc disponible au Liban, au Maroc, en Tunisie, et pour les pays arabes, c'est tout, hein, il est interdit partout ailleurs. L'écriture romanesque a débuté, en tout cas pour vos lecteurs, avec la sortie en 2002 de l'immeuble Yacoubian, succès critique, public, un peu partout dans le monde, notamment en France. La France que vous aimez aussi, dont vous aimez la langue, et on va pouvoir constater combien vous parlez merveilleusement bien le français dans l'heure qui vient. Alors, j'ai dit que votre père était avocat et écrivain. Est-ce qu'avoir un père écrivain, ça a un peu freiner votre vocation ou au contraire ça l'a révélé, Alaa Alaswani?
Non, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais enfant unique aussi. Alors j'étais très attaché à mon père. Et mon père, pour moi, mon père m'a appris beaucoup de choses. Et dès le commencement, j'avais l'écriture, j'avais la littérature chez nous. Les copains de mon père, quand je me suis rendu compte après que c'était les grands écrivains, les grands artistes de l'époque en Égypte. Et lui, toujours, il me demandait mon opinion. J'étais un enfant, alors je disais parfois n'importe quoi, mais toujours, il m'écoutait avec respect. Et je pense que c'est grâce à lui que je suis devenu écrivain, parce que il m'a conseillé beaucoup. Par exemple, je suis devenu dentiste selon son conseil, vous voyez. Parce que il m'a dit, écoute, tu ne pourras pas gagner ta vie avec l'écriture en Égypte, ce qui est vrai. Alors tu dois être indépendant, tu dois avoir un métier. Il m'a construit, si vous voulez. Alors j'avais de la chance d'avoir un père pareil, oui.
Vos premiers écrits, c'était quoi? Des écrits d'enfants, d'adolescents? Est-ce qu'il y avait un journal? Est-ce qu'il y avait des petites nouvelles, des histoires?
Non, à l'époque, quand j'avais 12 ans, on a étudié au lycée les caractères de la bruyère. Alors moi, j'ai décidé de faire les caractères, moi aussi. Et j'ai fait les caractères de mes oncles, qui sont les frères de mon père. Et une sœur, vous voyez? Mais j'ai fait une faute, c'est que j'ai utilisé dans mes caractères l'opinion de ma mère, qui n'était pas positive du tout, vous voyez. Alors j'ai écrit vraiment des choses terribles, ce qui était l'opinion de ma mère, vous voyez. Que la sœur de mon père, elle est terrible, elle est paresseuse, elle veut pas, je sais pas quoi, veut pas travailler, elle demande l'argent de mon père tout le temps, des choses pareilles. Et je suis allé à mon père en disant, parce que lui, il était francophone aussi. Et je dis, écoutez, moi, j'ai fait des caractères comme la Bruyère. Et il a dit, très bien, montre-moi. Et il a commencé à lire, et c'était, la réaction était terrible. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu es mal poli, comment on peut écrire des choses pareilles sur ta tante et sur tes oncles? Alors, j'ai pas couru vers le Nil, mais j'ai couru vers ma chambre.
Vous êtes rendu compte du pouvoir de la littérature.
Absolument. Non, mais après 10 minutes, il m'a appelé, j'étais en train de trembler. Et il m'a dit, écoute, il m'a donné la première leçon, 2 leçons en littérature. Quand tu écris, quand tu décris des gens qui existent, tu dois changer les noms. A. B, tu dois avoir une autre source d'information. Parce que lui, il a compris que c'est l'opinion de sa femme. Vous voyez? C'était vraiment ma première expérience d'écriture.
Après, ce qui importe, évidemment, pour un écrivain en devenir, à la Soigny, c'est la lecture. Quels ont été ou quels sont vos modèles en littérature?
Non, mais moi, je lis en 4 langues. Je lis en français, en anglais, en espagnol et en arabe. Mais j'avais vraiment la chance d'être au lycée français du Caire, parce que à l'époque, les années 60, on avait vraiment un programme très efficace de littérature française. Alors j'ai connu la littérature française avant les autres littératures, et ça a eu une influence énorme sur mon écriture. Et aussi, il y avait toujours mon père qui disait tu dois lire ça, tu dois pas lire ça. Par exemple, il m'a empêché de lire Dostoïevski avant l'âge de 20 ans. Il m'a dit, parce que c'est le plus grand, et tu ne seras pas capable de comprendre, et tu auras une impression négative qui fera une barrière entre toi et ce grand maître. Et c'est vraiment, il avait raison. J'ai lu Dostoïevski quand j'avais 20 ans. J'ai lu tout le roman de Dostoïevski. Et vraiment, ça m'a changé. C'est vraiment un grand maître.
Vous citez aussi régulièrement Gabriel García Márquez.
Oui. J'ai même décidé d'apprendre l'espagnol pour lire García Márquez et Lorca. Et Lorca. Les poèmes de Lorca. Si vous êtes francophone, selon mon expérience, c'est facile vraiment d'apprendre l'espagnol. Parce que le grammaire n'est pas loin, la structure de la phrase, et l'espagnol est une langue émotionnelle. Vous voyez, il y a de l'émotion dans la langue. Alors j'ai appris l'espagnol.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé chez Dostoïevski et García Márquez qui sont aujourd'hui les choses importantes dans la façon dont vous écrivez vous-même?
C'est que le roman, c'est une histoire humaine. Ça, c'est très important, parce qu'à un moment donné, on a commencé à poser des questions. Est-ce qu'on doit compter, on doit avoir une histoire dans le roman ou non? Non. L'autobiographie de García Márquez, le titre était « Je suis né pour raconter ». Vous voyez? Alors, pour moi, c'est vrai. Et aussi, les personnages. Dostoïevski et les personnages vivants, c'est ça qui compte. D'être capable de créer des personnages vivants et de créer un roman vivant. Dostoïevski même est allé plus loin, parce que il a presque détruit la forme romanesque du 19e siècle. Il y avait une forme, on l'appelle de Dickensienne. Mais lui, il l'a détruit. Parce que l'énergie de ses romans dépasse la forme. Alors c'est peut-être le seul romancier qui, en lisant, il peut vous dire... Moi, je vais vous présenter le personnage. Il y a aussi sa femme qui est très intéressante, mais je ne veux pas parler maintenant de sa femme, je vais parler après 2 chapitres. Et ça, c'est très drôle. Hein? Mais ils s'en foutent de la forme totalement. Et je pense que c'est une grande leçon. littérature.
Et est-ce qu'il y a d'autres arts qui nourrissent votre travail à la soigner? Est-ce que la musique, la peinture, le cinéma, on sait qu'il est important en Égypte?
Oui, normalement. Je ne peux pas imaginer un romancier qui ne s'intéresse pas au cinéma ou à la musique. Moi, je ne peux pas écrire. Je n'ai jamais écrit. Et peut-être c'est quelque chose qui signifie, qui reflète quelque chose sur moi. C'est que j'ai jamais écrit un mot en littérature sans écouter ou bien Om Kalsoum ou bien Edith Piaf. Et toujours les deux. Et quand je pense à ça, ça dit que ça, pour moi, ça dit quelque chose. Que j'ai sur moi les deux cultures, vous voyez. Alors, ou bien Om Kalsoum, ou bien Edith Piaf, pour écrire.
Et pas un peu de musique house de Chicago, ou de blues, ou de Motown?
Oui, mais...
Est-ce que cette troisième culture, elle arrive aussi?
Oui, mais en écrivant, je pense que vous avez besoin de sentir vraiment à l'aise. Et à l'aise, ça veut dire des choses vraiment très proches de vous. Des chansons très proches de vous. Oui, mais... par exemple, je peux écouter la musique classique, mais en écrivant des articles. Mais la fiction, c'est deux chanteuses.
Oui. Edith Piaf. Oui. Le cinéma, je l'évoquais, il y a eu un film de l'immeuble tiré de l'immeuble Yacoubian, il y a eu une pièce de théâtre de Jean-Louis Martinelli tirée de Chicago. Quel regard vous avez sur... quand les autres s'emparent de vos livres?
Moi, vous voyez, il y a deux visions, deux opinions là, par les romanciers. Il y a des romanciers qui disent, qui suivent, qui disent, ah, c'est, vous allez, ça sera une pièce tirée dans mon roman ou adaptée, je dois suivre, je dois lire, je dois intervenir. Et moi, je suis de l'autre école. Moi, je n'aime pas intervenir dans le travail des autres. Et moi, j'ai écrit mes romans pour les lecteurs de littérature, pas pour le public du cinéma. Si vous allez faire une adaptation, très bien, mais c'est votre travail. Si vous voulez poser des questions, si je peux, à un moment donné, vous aider, je le ferai. Mais ce n'est plus mon travail.
Alors, pour revenir un instant quand même sur l'immeuble Yacoubian... connaître un pareil succès avec un premier roman, on se demande comment vous l'avez vécu, parce que quand vous avez fini d'écrire ce livre, vous pensiez même d'ailleurs, je crois, partir en Nouvelle-Zélande, tout quitter, vous disiez, il va y avoir 500 lecteurs. Bon, il y en a eu 2 millions dans le monde, enfin, les chiffres doivent augmenter depuis mes dernières sources, 350 000 en France, exemplaires vendus, plus maintenant, traduits dans plus de 100 pays. Est-ce que c'est un signe de reconnaissance qui aide pour la suite, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un poids de se dire bah, maintenant, il y a des gens qui m'attendent pour le prochain livre?
Les deux. Les deux. Bah, moi, j'étais... comme vous avez dit, l'immeuble Yacoubian n'était pas mon premier roman, mais c'était mon premier roman.
Publié.
J'aurais voulu être égyptien. Ouais. Et des nouvelles. Et j'ai essayé, j'ai été refusé d'être publié par le ministère de Culture en Égypte 3 fois, 1990, 94, 98 et 98. Comme vous avez dit, j'ai dit c'est fini pour la littérature. Je serai seulement dentiste et je vais émigrer. J'ai dit à ma femme, écoutez, j'ai donné la littérature. Des années et des années, il y avait toujours des problèmes et tout. Je lui ai dit, j'écris un roman, dès que ça sera mon dernier roman. Et c'était l'immeuble Yacoubian. Vous voyez, ça a été vraiment un phénomène. Alors, ça, c'est une reconnaissance, comme vous le dites. C'est vrai. Mais c'est un poids aussi parce que. Vous devez vous débarrasser de l'influence du succès. Alors, j'ai arrêté d'écrire pendant un an et je me suis dit, je vais écrire mon prochain roman qui n'aura jamais ce succès et je n'aurai jamais ce succès. Comme ça, vous êtes tranquille et vous écrivez ce que vous voulez. Parce que vous pouvez trahir la littérature. Je connais la formule, vous voyez, et je peux la répéter. Répéter la formule. Mais si jamais je répète la formule, je trahis la littérature. Vous voyez, je dois écrire ce que je sens. Je dois pas penser au marché. Vous voyez. Alors j'ai fait ça. J'ai écrit Chicago qui a eu un grand succès et ça a continué.
Avec Chicago, comme avec J'ai couru vers le Nil, Alaa et la Swanee, vous avez quand même choisi la voie de la difficulté, c'est-à-dire de parler de l'histoire contemporaine, ce qui est quand même la chose la plus difficile, parce que la littérature est quelque chose qui peut donner le sens d'une époque, éclairer une époque, mais écrire sur des événements aussi récents, l'après 11 septembre pour Chicago, pour aller vite, hein, et puis là, la révolution égyptienne, de 2011 et ses suites dont J'ai couru vers le Nil, c'est un grand défi. Alors comment est-ce que vous avez procédé ?
Non, ça, ce qui compte, c'est être capable de créer les personnages. Les personnages, à un moment donné, m'échappent, ils deviennent indépendants et ils font ce qu'ils veulent. Parfois, je suis d'accord avec ce qu'ils font et plusieurs fois, je ne suis pas d'accord, mais c'est fini. Vous voyez, je suis sur l'écran de mon imagination, ce qu'ils font, et j'écris ce que je vois. Le plus important dans une fiction, c'est l'élément humain. C'est être capable de vraiment présenter l'humanité, les personnages, la souffrance des personnages, comment les personnages réagissent. Et c'est grâce à cet élément humain qu'on est capable maintenant de lire... Des romans qui ont été écrits depuis un siècle, vous voyez, au plus. Parce que l'humain reste.
Mais quand vous dites à Alaa et la Swanee, il faut créer des personnages, dans vos romans, il y a toujours beaucoup de personnages, on reviendra à cette façon de procéder. Mais vous avez des listes, vous dites, il me faut un vieil acteur de deuxième zone, il me faut un général et sa fille, il me faut une présentatrice très télé ambitieuse, il me faut vous. Et comment est-ce que vous les choisissez, vos personnages? Est-ce qu'ils viennent à vous? Est-ce qu'ils doivent quand même remplir des. Ils sont des points de vue, chacun. C'est quand même ça qui est important.
La formule, c'est personnage égale personne, ou personne avec S, plus imagination. Alors moi. S'il s'agit d'un acteur, ah, j'ai connu 3 ou 4 acteurs, je commence à faire le personnage, vous voyez, à créer le personnage avec l'imagination. À un moment donné, je crois que le personnage existe. Et c'est ça le moment le plus important et essentiel pour un roman. C'est que vous croyez que le personnage existe. Et aussi, il y a une recherche, j'écris par exemple un roman comme l'Automobile Club, ça se passe pendant les années 40.
Alors, là, vous faites des recherches sur...
Absolument, c'est du travail. Et parfois, on fait des recherches dans des lieux. Par exemple, avant d'écrire les meubles Yacoubia, je devais décrire les bars... vous voyez, où il y a des gens, les bars très pauvres et parfois des gens qui sont des criminels et des choses. Alors je suis allé, et j'avais pas de la chance parce que je suis allé dans un très mauvais bar. Et dès que je suis entré, il y avait la police. Alors la police est venue, est arrivée, et j'ai trouvé un officier de police qui a demandé carte d'identité, voilà. Je n'étais pas connu à l'époque. Et il m'a dit, ah, vous êtes dentiste? Il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Si vous voulez boire quelque chose, vous allez dans un hôtel 4 étoiles. Alors je me suis dit, si je vais expliquer à l'officier que je suis venu pour sentir le lieu, peut-être ça finira mal. Alors j'ai dit, écoutez, merci et tout. Et j'ai continué, j'ai simplifié l'idée. Alors, au lieu de faire une recherche romanesque, j'ai dit que j'écris un livre sur centre-ville. Ça, c'est plus facile à comprendre. Et j'ai trouvé des contacts pour des officiers du centre-ville et je suis devenu connu dans les bars Et dès que, parce que ils viennent pour arrêter les clients, vous voyez, parce que les clients, ils ont des problèmes, il y a de la drogue, il y a... Alors, l'officier entrait pour arrêter les clients, et il disait, bonsoir docteur, comment ça va?
Alors ça, c'est un travail, alors, pour le coup, d'enquête à la Hala Soigny. Alors, il y a un travail de documentation. Il y a une chose qui m'a beaucoup surpris dans J'ai couru vers le Nil. C'est que vous y insérez, alors, je me suis demandé, est-ce vrai, est-ce pas vrai, des témoignages. Et il y a une note, hein, qui indique que les témoignages présents dans cet ouvrage sont la transcription littérale de déclarations faites à chaud par les victimes et les témoins des événements qu'ils décrivent. Donc, ça,
des
c'est
vrais
du réel.
Témoignages. Oui, réel, mais je changeais de nom.
Oui, parce que j'ai changé de nom, comme a dit
non,
votre
j'ai
père.
J'ai pas le droit de publier des témoignages avec les vrais noms avant d'avoir une permission.
Bien sûr.
Et parce que ils vivent tous en Égypte, ils ne donneront jamais ils vont donner des permissions, vous voyez.
Mais qu'est-ce qui vous a décidé d'inclure ces vraiment ces alors même si beaucoup de choses sont on ne peut plus réalistes dans ce livre. Là, ce sont vraiment des morceaux de réel que vous mettez dans ce roman. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce choix?
J'ai senti que c'est mon devoir, vous voyez. Parce que on doit écouter ces victimes. J'ai fait la fiction quand même. C'est un roman où il y a... Ça, c'est moins que 5%.
Ah oui, mais à peine. C'est bien pour ça. C'est très étonnant. Mais ce sont les scènes les plus dures peut-être aussi.
Mais c'est mon devoir. On doit les écouter. Parce que ils ont souffert. Et ils ont parlé. Et je dois transmettre leur voix.
Il y a aussi ce fait que on est toujours tenté de se dire est-ce que dans les livres d'Alaa El Aswani, est-ce qu'il y a un personnage qui est son porte-parole? Est-ce qu'il y a un double de l'auteur? Alors, c'est pas votre. On n'a pas l'impression que ce soit votre façon de travailler. Et en même temps. On pourrait presque vous entendre dans beaucoup de vos personnages. Est-ce qu'il y a un peu de vous dans
absolument,
plusieurs?
Absolument, il y a un peu de moi, mais aussi...
Il n'y a pas de double, il n'y a pas l'auteur.
Non, il
n'y
a pas
hein.
de double, mais aussi, j'écris pas des romans pour mettre mes opinions, vous voyez, parce que je mets mes opinions dans les articles, et le roman doit être indépendant. Et je transmets les opinions des personnages, et souvent, je ne suis pas d'accord, vous voyez. Alors, en général, par exemple... qui décrit le peuple égyptien d'une manière négative. Je ne suis pas d'accord du tout. Mais je transmets toujours les opinions. Parfois, je partage l'opinion avec un personnage. Par exemple, ici, Ashraf, c'est le copte, l'acteur. On a beaucoup de choses en commun. Sauf qu'il aime beaucoup coucher avec les bonnes. Alors, ce n'est pas mon truc.
Avec ça, bon, ouais. Il est amoureux.
Quand oui, même. Mais il est libre, hein, c'est un homme libre, mais je suis
moi,
pas
je crois
d'accord.
À son amour et à la sincérité de son amour.
Oui.
Pas vous.
Non.
Mince alors.
Non, c'est pas mon truc du tout. Hein.
Bon, enfin, en tout cas, sur la sympathie qu'il a pour ces jeunes gens qui font la révolution, on sent bien qu'il y a quelque chose.
Oui, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été transformés à la même manière. Des gens, des bourgeois... Qui n'avaient rien à faire avec le changement. Ils se moquaient même, vous voyez. Et ils ont vu, une seule fois, la police en train de tirer et tuer les jeunes. Et ils ont été transformés, 180 degrés, vous voyez. Alors Ashraf, ce qui s'est passé avec lui, s'est passé avec d'autres. Et moi, je les ai vus, je les connais.
Tout de même, dans Chicago, Alaa El Aswani, il y a ce personnage de Nagui, dont on se dit quand même qu'il est quand même très très proche de vous, Nagui Abdel-Sawad, parce qu'il est poète, parce qu'il parle à la première personne dans sa correspondance. Est-ce que cette fois-là, il y avait quand même la volonté d'avoir plus...
Oui, on avait beaucoup de choses en commun, mais je suis romancier, il est poète, il y a toujours une différence, vous voyez, une différence, vraiment. Un romancier se comporte d'une manière très différente qu'un poète. Et comme poète, il vit dans l'inspiration. Et souvent, il a un problème de communication avec les autres. Le romancier, c'est différent. Le romancier, il est avec les gens. Et souvent, il communique très bien avec les gens. Il les aime. Hein, il les écoute.
Mais sur la question de l'inspiration, puisque vous dites que c'est pas la... la même nature d'inspiration, c'est-à-dire est-ce que le poète doit toujours être avec ses muses et l'écrivain il est au travail?
Non, oui, c'est plus. Vous êtes, si vous êtes poète, pendant cette émission, par exemple, quelque chose vous vient, vous allez écrire un vers comme ça sur le paquet de cigarettes et après vous, le soir, vous allez. Ça, c'est les poètes font ça. Mais le romancier, non, c'est un travail. Il faut de la discipline. Il faut travailler chaque jour pendant des mois ou des années. Vous voyez. Et ici, Isabelle Allende, il y a une phrase, une très belle phrase que j'aime beaucoup. Elle a dit la nouvelle tombe sur ma tête comme une pomme. Mais le roman est sur moi. Je dois travailler tous les jours pour le voir et je dois continuer le travail pour l'écrire. C'est vraiment très profond ce qu'elle a dit. C'est que on n'invente pas les romans, mais on les découvre. Vous avez le roman sur vous comme romancier. Et c'est une question de travailler, de travail. Comme ça, vous devez continuer à travailler pour sortir, pour faire sortir le roman et après le produire en écrivant. Mais je ne dis pas que le romancier travaille plus, mais j'essaye de comprendre la différence de nature entre un romancier et un poète.
À propos de discipline du romancier, est-ce que vous avez des horaires? Est-ce qu'il y a des lieux précis pour écrire?
Absolument. Je me sens le matin comme un soldat, vous voyez. 6 heures, maintenant pendant des années, plus que 25 années. Je me réveille à 6 heures. 6h30, je commence, vous voyez, 7 heures, à mon bureau, je commence le travail, je commence à écrire, même si je n'écris pas. Je réfléchis, j'essaye de former une idée de mon prochain roman et je continue le travail jusqu'à 13 heures. J'ai fait ça pendant des années. Et j'écrivais à un moment donné, avant j'écrivais dans mon cabinet dentaire. Vous voyez, parce que je vivais dans un appartement et le cabinet dentaire était juste à côté. Alors, et parfois, il y avait, vous voyez, dans un cabinet dentaire, on doit avoir un rendez-vous, mais vous aurez toujours des gens comme ça, qui viennent, qui tombent, comme ça, qui disent « Est-ce que vous avez un plombage ?» Je ne sais pas quoi. C'est impossible d'expliquer à ces gens-là que je suis en train d'écrire un roman, vous voyez. Alors, j'ai décidé de ne plus ouvrir la porte. Alors, quand il sonne, je dis « Oui ». Il dit, est-ce que vous avez un plombage blanc? J'étais écouté, maintenant on est en train de faire de la stérilisation du cabinet. Et c'est très dangereux pour votre santé d'être là. Normalement, il disparaît. Dans 3 ou 4 secondes, il n'y a plus le.
Alors 7h, 13h, c'est long? Après, il y a une autre journée de travail, il y a d'autres choses.
Oui, je deviens dentiste.
Et est-ce que le soir, vous relisez ce que vous avez fait le matin, ou est-ce que le matin, ça commence par relire ce que vous avez fait la veille? Comment vous procédez?
Non, il y a deux techniques d'écrire un roman. Il y a le brouillon, c'est que vous écrivez ce que vous voulez dans un premier roman, et deuxième, et troisième. Il y a une autre technique, c'est mon technique. Il y a des romanciers qui utilisent le brouillon et d'autres qui utilisent ce qu'on appelle vertical-horizontal. Vertical-horizontal, c'est que j'écris un nouveau chapitre et je reviens et je revise ce que j'ai écrit avant d'écrire un nouveau chapitre. Alors c'est pour cela qu'on appelle horizontal vertical. C'est que vous écrivez en horizontal et en vertical. Et à la fin, le texte que vous aurez, le manuscrit, c'est un texte qui a été révisé des dizaines de fois. Oui. Et je trouve ça, c'est plus difficile. Mais vraiment, je me sens beaucoup plus confortable avec ce technique que le brouillon.
Et pour être encore un peu plus technique, Alaa El Aswany, quand on lit J'ai couru vers le Nil, on a des chapitres avec différents récits de vie. Mettons qu'on reparlons de cet acteur qui vit sur la place Tahrir, on le trouve à un chapitre, puis il y a d'autres chapitres avec d'autres personnages, et puis on retrouve le personnage là où on l'avait laissé, on frappe très fort à la porte par exemple, et quatre chapitres plus loin on va retrouver cette histoire. Est-ce que vous écrivez l'histoire d'un personnage en entier, puis l'histoire d'un deuxième personnage, ou est-ce que vous-même dans l'écriture vous alternez?
Non, j'écris exactement comme vous lisez, vous voyez, chapitre après chapitre.
C'est-à-dire vous les laissez
Oui, je les laisse et après ils continuent. Et aussi, j'aime faire ça parce que je pense que c'est évident, mais on doit, malheureusement, il y a des choses qui sont vraiment très évidentes, mais on doit répéter. La lecture d'un roman doit être un plaisir. Oui, c'est pas la torture, vous voyez. Alors, il y a des romans vraiment qui vous torturent. Comme, c'est une torture. J'ai écrit un article, je me moquais de la sécurité d'État en Égypte à un moment donné. Et j'ai dit, écoutez, vous êtes pour avoir des confessions, vous êtes en train de torturer les gens, de les frapper, de tout. Moi, j'ai une idée. Je vais vous donner une liste de 5 ou 6 romans. Et la torture sera, c'est que vous obligez le prisonnier à lire le roman ou à signer les confessions. Et je vous dis que le prisonnier le plus dur chez vous, avec quelques romans, il ne pourra plus supporter plus que 3 ou 4 chapitres. Vous voyez, parce que vraiment, c'est la torture. Alors, j'essaye de donner un plaisir à mes lecteurs. Et c'était Dostoïevski qui était... La plupart des écrivains avaient cette intention, cette motivation. Garcia Marquez, Anton Tchekhov, Balzac, tout le monde. Vous voyez, presque tout le monde. Parce qu'il y a d'autres écrivains qui ont une vision différente.
Ça veut dire que vous pensez à vos lecteurs
Absolument.
Tous les jours?
Oui, mais non pas mes lecteurs. J'écris pour mes lecteurs, mais ils n'ont pas d'autorité du tout. C'est pas eux qui décident, c'est moi. Mais je les aime, j'écris pour eux. Mais j'écris pour eux ce que je veux écrire, pas ce qu'ils attendent.
Mais est-ce qu'il y a des gens, sans doute, mais au bout d'un moment, et à quel moment, à qui vous faites lire le livre qui est en cours d'écriture?
Non, c'est
personne ne lit.
Personne ne lit. Après, quand le texte est terminé, je donne à ma femme, je donne à mes enfants, je donne à des amis. Mais c'est très dangereux de donner un texte qui n'est pas terminé à quelqu'un pour le lire. Pourquoi? Parce que si vous faites confiance à quelqu'un. Et vous dites, par exemple, vous donnez un chapitre à lire, hein, et vous trouvez qu'il n'a pas trop aimé le... Hein, alors, vous commencez à perdre l'enthousiasme, vous voyez, pour le texte. Et ça, c'est très dangereux. Je dois finir. Et après, je donne à lire.
Mais vous vivez longtemps avec vos histoires, vos personnages à chaque fois.
Absolument, ils deviennent... Je n'exagère pas, ils deviennent vraiment indépendants et... Ils font des choses qui m'étonnent parfois. Avec l'immeuble Yacoubien, par exemple, il y avait un homme qui est Zaki, qui est un personnage âgé, qui est tombé amoureux avec une jeune fille. Et la police a arrêté le couple. Ils ont été humiliés par la police. Et la fin du chapitre, il dit à la fille, on doit vraiment oublier ce qui s'est passé. Alors elle dit, j'étais toujours une personne malheureuse. J'ai fini le chapitre et j'ai vraiment senti très mal. Parce qu'elle était vraiment malheureuse dans sa vie. J'ai passé toute la journée à penser à elle. Le lendemain, je me suis réveillé 6 heures. 7 heures, j'ai ouvert l'ordinateur et je me suis rendu compte qu'ils se sont mariés. J'étais très content. Et je suis sorti de mon bureau. Il y avait ma femme à 7 heures le matin. J'étais en train de sourire. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ils se sont mariés.
Mais alors du coup, elle savait quand même de qui vous parliez ou est-ce que...
Elle me suit, mais à ce moment-là, elle ne savait pas. Mais elle a dit, très bien, s'ils se sont mariés, félicitations.
Mais ça veut dire que vous pouvez aussi rêver de vos personnages, de absolument, vos histoires?
Absolument, pour un écrivain hein, qui commence, j'ai quelques conseils, c'est que tous les problèmes que vous avez d'écriture, pensez à ces problèmes avant de dormir. Vraiment. Hein. Le lendemain, si vous vous réveillez tôt, vous avez bien dormi, vous aurez vraiment souvent les solutions.
Ça vous est arrivé souvent, oh, visiblement.
Plusieurs fois.
C'est vrai.
Plusieurs fois.
Bon, voilà, un bon conseil. Sans doute peut-être pas si facile que ça à suivre, Alain et la Soigny, mais vous disiez que vous ne montriez donc les livres qu'une fois terminés. Mais comment vous savez que c'est terminé?
C'est terminé parce que les personnages ont fini de ce qu'ils voulaient faire et je n'ai plus rien à écrire. Mais il y a toujours un sentiment très spécial avant de vraiment avoir le manuscrit final et de l'envoyer. Et c'est un sentiment mélangé un peu parce que stratifié, comme on dit en latin, c'est stratifié, il y a des couches. Parce que vous êtes content parce que vous avez terminé le roman, vous êtes fier peut-être, mais il y a une tristesse. Parce que vous allez sortir d'un monde dans lequel vous avez vécu pendant 2-3 ans.
Vous avez le même traducteur en France depuis vos débuts à la Soigny, c'est Gilles Gauthier, qui n'était pas traducteur à la base, il était diplomate, mais il a tellement aimé l'immeuble Yacoubian qu'il a décidé de le traduire. Oui. Depuis, il a traduit tous vos textes en français. Alors, comme vous le disiez, vous lisez en plusieurs langues, hein, bien sûr, mais français, anglais, espagnol. Est-ce que, avec Gilles Gauthier, avec d'autres traducteurs, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous échangez?
Ça dépend. Si le traducteur a besoin de poser une question, oui, avec plaisir. Mais pour Gilles, j'avais de la chance. Vraiment, Gilles, maintenant, est mon ami, un ami très proche. Mais quand il a commencé, il est venu pour me dire que j'ai fini la traduction de l'immeuble Yacoubian. Il a fait ça. Il n'était pas traducteur à l'époque. Il n'a pas contacté des maisons de publication. Rien. Pour son plaisir. Vous voyez, il est diplomate, il a vécu 50 ans dans le monde arabe. Son dernier poste, c'était l'ambassadeur de France au Yémen. Il vient de sortir un roman très bien, parce qu'il est romancier lui-même, sur son expérience dans le monde arabe. Mais, parce qu'il est romancier, j'avais de la chance, je dis, parce que il sait très bien que la traduction littéraire, c'est beaucoup plus que le sens... des mots, vous voyez. Un traducteur littéraire doit être capable de reproduire le texte dans une autre langue. Et Gilles fait ça d'une manière très efficace.
Et par exemple, pour ce livre-là, alors singulièrement, c'est pas la traduction littérale du titre arabe original, La République comme si, qu'on retrouve à la toute fin du texte d'ailleurs. Changer le titre, c'est quand même pas rien. J'ai
Mais
couru
c'est
vers
pas
le
Gilles qui a changé le titre, c'est Actes Sud, c'est le directeur de publication qui est un ami aussi, et que quelqu'un que j'ai confiance, et quelqu'un qui connaît, qui comprend littérature, c'est Bertrand Pi. Et son opinion c'était que le mot république en France reflète quelque chose de différent. Alors lui, il a pris une phrase... du texte, parce qu'il y avait une victime qui a dit « J'ai couru vers le Nil ». Et j'ai trouvé ça très bien. Et j'ai accepté, j'ai aimé le titre. Et intéressamment, Feltrinelli, ma maison de publication italienne, a préféré le titre français que le titre original.
Alors, la République en Italie, c'est compliqué aussi, oui, mais c'est autre chose.
Oui. Alors il y a seulement, je suis traduit en 37 langues, mais il y aura seulement en français, en italien, ce titre.
Alors du coup, vous regardez quand même aussi les traductions anglaises et espagnoles plus précisément.
Oui, et parfois j'ai des problèmes, c'est pour ça que je vous dis que Gilles, vraiment, c'est le meilleur traducteur que j'ai. Parce que parfois vous voyez un traducteur, par exemple, qui traduit les articles dans les journaux, n'est pas forcément le bon traducteur pour un roman.
Oui, parce qu'il y a une question de souffle, une question de rythme dans votre écriture. Quand vous disiez, ça ne doit pas être une torture et un plaisir, le plaisir de lire Alaa et la Swanee, c'est quelque chose qui nous emporte, mais avec une forme de douceur, parfois de brutalité. Il y a beaucoup de rythmes différents.
C'est très compliqué. Si vous n'êtes pas, je pense que un traducteur littéraire doit être doué, être capable de sentir le texte et de le reproduire.
Je reviens encore une fois à l'idée que le roman est terminé à un moment donné, à la Swanee, et sur cette question du rythme. Une fois qu'il est terminé, que vous avez repris, révisé le dernier chapitre, j'imagine que vous revenez depuis le départ, que vous repassez tout en revue. Est-ce que là, il y a quand même des corrections? Est-ce que là, il y a ce sens du rythme?
Très bien, mais on doit pas aller trop loin. Vous voyez, ça c'est vraiment, ça c'est quelque chose pour les jeunes écrivains aussi. Si vous travaillez avec le technique horizontal vertical, ça veut dire que vous avez révisé plusieurs fois. À la fin, vous ne devez pas vraiment continuer à réviser parce que ça peut avoir une influence négative sur vous et sur le texte. À un moment donné, vous devez dire, j'ai fait ce que je peux faire. Et c'est fini. Parce que on peut continuer à réviser et réviser et réviser. Et si vous continuez à faire ça, vous aurez toujours des choses à corriger. Et vous allez... Parce que ça m'est arrivé au commencement, il y a 30 ans, vous voyez. Et vous allez découvrir, après avoir corrigé ces choses, que vous ne devrez pas les corriger. Alors c'est terrible. Vous devez à un moment donné, comme ça, avoir une ligne, comme ça, c'est fini, un point, c'est fini.
Cette question de la transmission, justement, vous avez parlé de l'importance des conseils de votre père. C'est vraiment une forme de, peut-être mission, c'est un bien grand mot, mais il y a ce désir chez vous de transmettre, de dire voilà ce que je sais, moi, de mon expérience, de vous la donner à vous.
Oui, c'est exactement ce que je fais en Amérique. J'ai fait mon atelier d'écriture, on appelle ça Workshop of Creative Writing à Brooklyn. Alors, je reçois des étudiants qui sont écrivains, jeunes écrivains pour les aider. Et j'ai enseigné Creative Writing à Bard College et je vais enseigner en hiver à Dartmouth University. Le système qui n'existe pas malheureusement en Europe, c'est que les départements de littérature, il y a les professeurs de littérature, il y a aussi les écrivains. Il y a toujours une place pour un écrivain pour enseigner un semestre ou deux semestres, parfois plus, vous voyez. Comme ça, les étudiants de littérature auront la connaissance de théorie, si vous voulez, et le pratique à la fois, par un écrivain, un vrai écrivain. Alors, c'est exactement ce que je fais. Et ça me fait vraiment plaisir de découvrir les talents. J'ai découvert vraiment des jeunes très doués. Hein, et j'essaie tout le temps de transmettre mon expérience. Vous voyez, vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de faire ça.
Et qu'est-ce que vous apprenez, vous, à leur contact?
J'apprends que être doué, et c'est exactement ce que mon père m'a dit il y a 40 ans, et ça ne suffit pas du tout, être doué, ça suffit, c'est le commencement. On doit faire vraiment un effort. Parce que vous trouvez des étudiants doués qui ne sont pas déterminés, qui ne font pas vraiment un effort. Et des étudiants moins doués qui seront mieux, parce qu'ils travaillent. Vous voyez? Et aussi, j'essaye de les faire lire les textes des grands maîtres, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, avec laquelle je ne suis pas d'accord dans le système américain de creative writing, dans les universités, c'est que on enseigne l'écriture comme seulement des techniques. Les techniques. Et le technique est important, mais comment vous serez un écrivain sans lire, lire Balzac ou Hugo ou Camus ou les grands maîtres? On doit pas, on peut pas être écrivain sans lire les grands maîtres. On doit les lire. C'est ça vraiment, c'est ça l'école de littérature.
Et à propos d'enseignement, à la Soignée, c'est une question qu'on pose régulièrement dans ces masterclass de France Culture. Est-ce que vous avez le sentiment que le progrès, ça existe en art? Est-ce que vous êtes un meilleur écrivain aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans? Est-ce que vous progressez?
Absolument. Des choses que je mettais 2 heures à faire, maintenant je peux la faire en écrivant en 10 minutes. Parce qu'il y a toujours... c'est pas question que tu aies un meilleur écrivain, mais il y a aussi cette connaissance et cette expérience que vous savez que ça, comme ça, ça ne veut pas marcher. Vous voyez? Comment j'ai su ça? Selon mon expérience. J'ai passé des mois au commencement, il y a 35 ans, des mois à essayer d'imaginer un roman, et après, je me suis rendu compte que ça ne va pas. Maintenant, non, ça ne prend pas de moi. Des mois, je sais dès le commencement si vraiment ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Ça, c'est très, très important. Et ça, on ne peut pas enseigner ça. Ça, c'est l'expérience. Vous devez continuer à travailler et vous aurez votre expérience à vous.
Est-ce que, presque à l'inverse de ma question précédente, vous imaginez ne plus écrire un jour?
Non. C'est la mort. C'est la mort. Pour moi, la mort, c'est la seule raison pour moi d'arrêter d'écrire. Parce que écrire pour moi, c'est, pour dire la vérité, écrire pour moi, c'est la vraie vie. Je vis vraiment quand j'écris. Je vis dans le monde avec les gens que j'aime et tout. En attendant le moment d'écriture.
Ça veut dire que vous pourriez continuer à écrire même si vous n'étiez plus publié, si la censure devenait mondiale dans un monde horrible et qu'on ne souhaite pas? Il faudrait continuer d'écrire pour continuer à vivre?
Absolument, non. Vous écrivez parce que vous avez besoin d'écrire. Ça dépasse le marché, ça dépasse les maisons de publication, votre agent littéraire, ça dépasse les critiques, ça dépasse... Non, je ne peux pas, je dois écrire. Je dois écrire ce que je veux dire, vous voyez, et transmettre les personnages, créer des personnages, transmettre les mondes. Je pense que moi et tous les romanciers, j'ai sur moi des mondes, vous voyez, et je fais sortir ces mondes l'un après l'autre. En écrivant, alors ça c'est un besoin, vraiment un besoin pour vivre. Et ça, c'est pas question de, oui, je serai malheureuse si je n'arrive pas à mes lecteurs, je suis malheureux, je serai malheureux si je serai interdit et tout. Mais ça c'est une autre chose, c'est un besoin humain pour moi de continuer l'écriture.
Et puis un besoin humain chez vous, à la Soignée, de dire les choses, de dire votre vérité. Moi, j'avais été très frappé la première fois qu'on s'était rencontrés pour France Culture, c'était en 2006, c'était au Caire, donc c'était un autre temps de l'Égypte, et j'étais très surpris par la liberté de votre parole en direct à la radio, et c'est quelque chose, et c'était à l'époque dans les journaux, il y avait l'écriture évidemment déjà. Est-ce que la révolution de 2011, je reste sur cette date-là parce que la suite, hélas, on la connaît pour l'instant. Est-ce qu'elle a changé quelque chose dans l'écriture dans un premier temps pour vous, cette révolution ?
Non, j'écrivais toujours ce que... J'ai toujours écrit ce que je pense. Et je continue à faire ça. Et il y a une phrase par Che Guevara que j'adore. Il a dit l'honneur, Guevara a dit l'honneur, c'est que tu dis toujours ce que tu penses et tu fais toujours ce que tu dis. Et j'essaye de faire ça.
Oui, mais c'est...
C'est pas facile.
C'est pas facile quand c'est une question de vie ou de mort, ce qui est quand même le cas, là.
Oui, mais écoutez, moi, je ne regrette rien. J'étais toujours fidèle à mes opinions, à mes idées. J'ai essayé toujours d'être... De défendre les valeurs humaines. Et j'ai payé un prix, et je suis en train de payer le prix volontiers. Vous voyez, et je serais même préparé pour payer un prix même plus cher pour mes idées. Je continue à écrire ce que je veux dire, à dire ce que je pense et à faire ce que je dis.
Alors, je ne parle pas de la censure là, mais Alaa El Haswani, la réception critique de votre travail dans les différents pays, est-ce que ça vous importe? Est-ce que vous les lisez? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer aussi, du coup, dans votre façon d'envisager la littérature?
Absolument, mais ça dépend des critiques, vous voyez, parce que les critiques est un terme, vous voyez, est-ce que c'est vraiment des critiques ou c'est des gens qui ne parfois il y a des gens qui ne m'aiment pas, vous voyez. Ça, c'était bien. Je suis aimé par tant du monde que ça va. Mais un vrai critique, oui, ça aide beaucoup. Hein. Et je vous dis quelque chose. Plusieurs fois, mes lecteurs sont des critiques beaucoup mieux que les critiques très connues. Un lecteur qui n'a pas étudié pour être... Mais il lit un texte, il vous dit, écoutez, moi j'ai adoré, mais... Et il pose une question de... Ça me fait réfléchir. Il a raison. Vous voyez, je pouvais faire autre chose. Vous voyez. Et aussi, il y a des critiques, des grandes critiques. Que oui, tout le temps, j'essaye d'apprendre. Et même les écrivains les plus grands de l'histoire, ils apprenaient. Je continue à apprendre. Pour écrire mieux et mieux, oui.
Alors, je n'ai pas fait la recherche qu'il faudrait à Alaa El Haswani, mais est-ce que, il ne me semble pas que vous ayez beaucoup de prix, beaucoup de récompenses pour vos livres. J'espère
non,
me tromper.
J'ai eu beaucoup de prix, mais
pas en France.
Pas dans le monde arabe.
Pas dans le monde arabe.
Oui. Pas, j'ai eu un seul prix dans le monde arabe, et j'ai eu 17 prix autour du monde. Et j'étais décoré, j'ai eu l'ordre de lettres et de l'art par la République française.
C'est important, ce type de reconnaissance.
C'est très important. C'est pas seulement parce que j'aime la France. Et la France ne m'a jamais, vous voyez, déçu. Mais aussi parce que cette décoration est venue dans un moment très difficile en Égypte, en 2016, où j'étais vraiment interdit de tout. Ils m'accusaient dans les médias d'être un agent de CIA et de Mossad et de l'Iran à la fois.
C'est pas mal.
C'est mal.
Bravo.
Vous voyez, alors c'était. Et j'étais pas. C'était vraiment un moment très dur. Alors, avoir. Cette décoration de la République française, c'est vraiment... Je serai toujours fier, mais aussi le moment était très bien. Parce que ça a été interprété comme un soutien, vous voyez. Et c'était vraiment un soutien.
Le prix littéraire, ça vous fait plaisir?
Ça dépend, parce qu'il y a des prix littéraires, vraiment, que je sais comment ça fonctionne, vous voyez. Parce que j'étais dans les jurys, moi, et j'ai cessé d'être dans les jurys. Parfois, c'était bien. J'étais dans le jury d'une compétition organisée par Financial Times en 2015. Et c'était très bien. On a fait pour le troisième monde, les écrivains du troisième monde. Mais parfois, vous vous trouvez dans des calculations incroyables. On fait une réunion et ça, c'est m'est arrivé dans un prix arabe. Et vous trouvez quelqu'un qui dit, le président, écoutez, on a donné ce prix aux écrivains égyptiens deux fois avant et deux fois irakiens, et on a donné un Libanais. Alors on cherche de donner le prix à une écrivaine marocaine. Et je trouve ça, avant de lire les textes, c'est incroyable, vous voyez. Alors et ça, malheureusement, c'est pas rare, vous voyez. Alors, ça dépend du prix.
Oui. C'est pas rare. Oui. Une dernière question traditionnelle dans ces masterclass, à la et la soignée. Est-ce que la postérité, ça compte pour vous?
En quel sens?
Est-ce que c'est important de savoir pour vous que vos livres resteront, qu'ils seront lus plus tard? Et qu'ils seront aussi un témoignage.
Vous voyez, Anton Tchikhov, parce que j'enseigne Anton Tchikhov, et c'est quelqu'un de vraiment formidable, même comme personne. Et la plupart des grands écrivains étaient comme personne, très bien. Alors, lui, parce qu'il était médecin, il savait qu'il allait mourir. Et il a dit à un ami, écoute, moi je suis content, moi je vais mourir, je le sais, mais je suis content parce que mes œuvres vont vivre 6 ans après ma mort. Alors l'ami a posé une question, mais pourquoi 6 ans? 6 ans seulement? Alors Tchikhov, qui était vraiment une personne très simple, il a dit, tu penses plus que 6 ans? 10 ans, 7 ans. Tu vois, comment il était simple et modeste, un grand maître. Moi, après 150 ans, j'enseigne Tchikhov à New York. Vous voyez? Alors, moi, j'aime bien, hein, mais c'est pas moi qui dois décider. C'est pour cela que j'ai raconté cette histoire de Tchikhov. C'est pas à nous de dire. Oui. C'est au lecteur, c'est à l'histoire de dire.
Merci beaucoup, Alaa El Aswany. Merci à
merci,
vous.
Merci. Merci, merci.
C'était la masterclass de Alaa El Aswany avec Arnaud Laporte. Attaché de production, Nathalie Lempereur. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Clotilde Pivin.